J'ai ici quelque chose de spécial. Pour ce thème que nous développons ce matin, l'or, l'encens et la myrrhe, les cadeaux d'adoration des mages, à partir du verset qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui nous as donné ta parole, la Bible, la vérité, Seigneur Dieu, pour nous dire exactement qu'est-ce qui est quoi. Et pour nous donner, Seigneur Dieu, la révélation que tu avais un plan éternel. Tu savais qu'on allait pécher et tu as déterminé depuis l'éternité passée que Jésus-Christ, ton Fils unique, tu le donnerais pour qu'il devienne humain, qu'il soit né humblement et qu'il deviendrait un homme mature pour être ensuite rejeté et cloué sur une croix, mais qu'il ressusciterait, Seigneur Dieu, qu'il vaincrait la mort et qu'il offrirait la vie éternelle à quiconque met sa confiance en lui, croit en lui, Seigneur Dieu, d'un cœur repentant. Seigneur, on te prie que tu puisses m'aider à bien proclamer le sens de ta parole ce matin. Seigneur, donne grâce et que chacun puisse avoir le souci de vraiment vouloir vérifier que tout ce que moi je puisse dire, ça vient vraiment de la Bible, Seigneur Dieu. C'est conforme à la Bible parce que c'est la Bible, la vérité. On te prie au nom de Jésus.
Amen.
Donc, j'ai ici des cadeaux. Quand on pense à Noël, c'est un thème qui est très souvent développé, qui est très souvent publicisé. Noël, c'est les cadeaux. Mais d'où ça vient cette idée-là qu'on se donne des cadeaux, quand on a des cadeaux à Noël, etc. D'où ça vient ça? C'est qui a offert le premier cadeau? Est-ce que ce sont les mages? Est-ce que les mages, avec leurs cadeaux qui sont venus à la naissance de Jésus, en passant, c'était après la naissance de Jésus, peut-être un an ou deux après, ok? Parce que ça leur a pris du temps de voyager, tout ça, et il était dans une maison maintenant, il était un petit enfant. C'était pas comme les bergers, que c'était la nuit même où il est né, qu'ils sont venus, parce que c'est à ce moment-là que Dieu leur a révélé. Mais on célèbre quand même Noël avec les mages, parce que c'est quand même le fait qu'ils soient venus, qu'ils soient nés. Donc on comprend que c'est pas chronologiquement le même jour qu'il est né. D'ailleurs, on ne sait même pas certain qu'il est né le 25 décembre. De toute façon, la date, c'est pas grave, on souligne l'événement. C'est pas mauvais de se donner, bon, d'aller avec la tradition du 25 décembre, tout en sachant que ce n'est pas la tradition qui compte ou qui fait loi, mais le fait qu'il est né, c'est ce qu'on célèbre à Noël. Et donc les mages, ils sont venus avec des cadeaux. Hein? Peut-être pas tout de suite. Le premier cadeau, est-ce que ce sont les mages? Non! Non, non et non! Ce ne sont pas les mages. C'est Dieu qui a offert le premier cadeau. C'est Dieu qui a initié. Nous, on était tous pécheurs, on était tous égoïstes, on était tous juste à rendre le mal pour le bien que Dieu nous donne. Nous étions ses ennemis et c'est lui qui a offert la réconciliation. C'est lui qui a tendu la main. C'est lui qui veut nous sauver. C'est lui qui a donné le premier cadeau, Jésus. Car Dieu, on va le dire ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu ayant donné son cadeau de son Fils, et son Fils qui va donner le cadeau de sa vie, pour offrir le cadeau de la vie éternelle. Moi, je l'ai accepté. D'autres ici l'ont accepté. Si vous ne l'avez pas encore accepté personnellement, il n'est pas encore trop tard. Vous avez la respiration. Alors, utilisez-la pour invoquer Dieu. Alors, Dieu a fait le premier cadeau. Et ce n'est qu'en retour que les mages arrivent avec des cadeaux. Et ces cadeaux en disent long sur leur foi en qui était ce petit enfant. Là, voulez-vous voir ce qui est à l'intérieur de ce paquet. On l'a fait venir du Moyen-Orient. Bon, pas tout à fait, mais vous comprenez l'idée. Alors, hein, trois cadeaux. On ne sait pas combien de mages qu'il y a, mais on sait combien de cadeaux qu'il y a. Parce que la Bible parle de des mages, mais il parle de trois cadeaux. Donc, on va voir trois mages, parce que la tradition souvent, et on en trouve surtout trois. Mais il pouvait être 10, il pouvait être 15, je ne sais pas. Mais ils ont amené ensemble trois cadeaux. Quels cadeaux ont-ils donné? D'abord, on va voir la valeur de leur cadeau. Ben, quel cadeau? Vous le savez déjà, on l'a lu.
L'or,
l'encens et la myrrhe. Alors, qui veut deviner lequel est lequel? Qui veut deviner où est l'or? Celui-là? Qui vote pour celui-là? Qui vote pour celui-là? Qui vote pour celui-là? Bah, c'est celui-là qu'on gagne. Alors, on va ouvrir le paquet. Et... une boîte. Et il y a quelque chose dans la boîte. Alors, juste au son, vous savez que c'est pas vrai, mais... on va faire une collecte d'or à la fin, peut-être qu'on a assez d'or pour faire de quoi. Mais de l'or, pourquoi de l'or? Parce que c'est précieux, de l'or. Là, le prix, j'ai lu dans un article que ça avait beaucoup monté dernièrement. Et c'est pour ça que malheureusement, leur péage illégal monte beaucoup aussi, parce que là, et c'est dommage. On ne peut pas faire les choses justement. Mais non! Ensuite, après l'or, l'encens. L'encens, c'est quoi de l'encens? Alors, est-ce qu'il faut ouvrir celui-là ou celui-là?
Non, c'est pas celui-là.
Celui-là?
Oui.
Qui vote pour celui-là? Hein? C'est ça? Moi-même, je ne m'en rappelle plus.
C'est celui-là.
Ouais. Ah, ouais. Ah, et ça, c'est l'encens. Ça, c'est l'encens. Vous sortez l'encens? C'est de l'encens. Si vous voulez ne pas le... si vous préférez ne pas le sentir, vous pouvez. Mais l'encens, ça vaut la peine de savoir ce que c'est. La Bible en parle. La Bible en parle. Il y a quelque chose de savoir. Mais on n'y touche pas, donc ça ne devrait pas être trop pour les propres si on n'y touche pas. On fait juste sentir un peu. Avez-vous déjà senti ça, cet encens-là? Ça, c'est de l'encens qui est vraiment de l'encens naturel. Il y a beaucoup de sortes de parfums. Le mot encens, c'est un nom qui a été utilisé un peu pour toutes sortes de parfums. As-tu eu l'occasion de le sentir? Bien. Mais le vrai encens... Ah non, j'y arrive. Hop, je me dévance un peu. Ça coûte cher. Le vrai encens, c'est cher. Et c'est pour ça que, puisqu'ils croyaient et qu'ils reconnaissaient que Jésus était Dieu, ben, c'est pas un petit set de Lego hein, qu'ils vont acheter. C'est quelque chose de cher pour Jésus. Et la myrrhe. Maintenant, on a cherché long et fort. On a découvert que les pharmacies dans le passé vendaient de la myrrhe en bloc, mais on n'en a pas trouvé. Mais c'est une sorte de... donc, je peux le passer, mais vous ne sentirez rien, c'est que je ne vais pas prendre le temps. Mais c'est comme de la sève, mais je me dévance. Ça aussi, c'est cher, de la myrrhe. On va y revenir là-dessus. Mais le point, c'est que tous ces cadeaux-là, c'était cher. C'était très cher. Imaginez-vous le coût aussi du voyage pour les apporter, ces cadeaux-là. Ouais, c'était des mois de temps de voyage. C'était des mois de temps. C'était beaucoup d'argent pour voyager. Mais eux, ils étaient prêts à mettre la valeur dans leur cadeau. Parce qu'ils reconnaissaient que Jésus était le fils de Dieu. Maintenant, la nature de leur cadeau. Là, on va parler plus hein, l'or. C'est un métal précieux. Hein? Moi, j'en ai, depuis que je suis marié, j'en ai et je le porte constamment. Hein? Parce que ça représente l'union avec le cercle jusqu'à ce que la mort nous partage. En or, parce que l'union est précieuse et c'est à chérir. Et donc, moi, je porte de l'or, comme ça, peut-être d'autres qui ont un peu quelques affaires d'or, mais de l'or, c'est précieux. C'est digne de la royauté. De l'or, on ne peut pas se tromper avec ça, c'est digne de la royauté. Et justement, le livre de Matthieu, ça souligne que Jésus est venu comme le fils de David, le roi. Ah, il est non seulement Dieu, il est roi. Ah, de l'or, certainement de l'or pour Jésus même dans son enfance. L'encens donc, parlons de l'encens. L'encens, c'est aussi de la sève. L'encens naturel, comme ça, là, ça vient d'un arbre qui produit une sève qui a une forte odeur. Vous l'avez tous, je ne sais pas si tous, mais beaucoup d'entre vous l'ont senti. Et d'ailleurs, il y a juste l'essence de l'encens, mais l'encens, ça vient comme ça. Hein, c'est de la sève. C'est de la sève. Il coupe une partie de l'arbre. L'idéal, c'est comme vers septembre, octobre. Et là, trois mois après, tout ce qui aura coulé et séché, là, ce sera le bon temps de le prendre. Et ça, c'est cher aussi, on l'a déjà vu. Ça vient donc d'un arbre à encens. Comme vous voyez, un genre d'arbuste. Et ça, c'est le genre de sève qu'ils récoltent, etc. Et ensuite, ils vendent. Et on en fait beaucoup d'odeur. Maintenant, la Bible parle de l'encens, justement, comme étant ce qu'on élève à Dieu en parfum de prière. Et la Bible nous parle que dans l'Apocalypse, les prières de ceux qui ont cru en Jésus et qui prient, Dieu les considère un peu comme de l'encens qui monte, comme un parfum qui monte. Hein, c'est pas mauvais, hein? C'est bon. Alors Dieu s'est servi de cela. Alors je lis, un autre ange vint, il se tint sur l'autel ayant un encensoir. Et d'ailleurs, le mot hein, encensoir, c'est le même mot. Dans le contexte, soit le produit ou soit la chose qu'on se sert pour envoyer la fumée. L'encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Dieu aime les prières. Et justement, les mages sont venus avec de l'encens parce qu'ils reconnaissaient qu'avec Jésus, il était Dieu, il vaut l'adoration, mais c'est aussi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est celui qui nous permet de prier à Dieu. Jésus, c'est cet intermédiaire, ce grand sacrificateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, la myrrhe. La myrrhe, j'ai pas la myrrhe réelle. J'ai de la sève d'autre chose qui n'est pas parfumée. Celle-ci sert à mettre sur les cordes de violon, pour que vous sachiez. Mais ça ressemble un peu à ça, mais de la myrrhe. On lit souvent dans la Bible à propos de la myrrhe. Ça vient d'un arbre, pas un gros arbre, un arbuste, genre arbuste. Cet arbre, il y a des grands ronces. Et ça nous introduit au thème un peu que la myrrhe va prendre un peu, parce que, rappelez-vous, les ronces sur la tête de Jésus, lors de la crucifixion, ça nous introduit un peu à ce sujet-là. La myrrhe, ça fait un tout, et ça fait penser à la crucifixion de Jésus. Mais il n'y a pas juste les ronces qui nous fait penser à cela. Parce que c'est très amer comme produit. Et ils s'en servaient pour mélanger avec du vin, pour calmer un peu la douleur, comme un genre d'anesthésique. Même avant qu'il soit crucifié. Donc quand il arrive sur le calvaire, sur la colline du Golgotha, avant même qu'il le cloue, il lui offre à boire. C'est-à-dire, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Ça, c'est selon Matthieu. Dans Marc, ça dit, du vin mêlé de myrrhe. Myrrhe était connu comme quelque chose de très amer, donc parfois ils interchangeaient le terme, parce que ce qui était myrrhe, bah, c'était l'amertume. Donc on comprend un peu pourquoi un a un mot et l'autre a l'autre, parce que ça fait, c'est un peu comme, c'est dans le champ lexical. Mais il ne le prit pas. Mais Matthieu nous donne un petit détail. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Est-ce que Jésus-Christ était venu pour s'esquiver de la souffrance que nous on méritait? Il avait dit à l'un de ses disciples, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La coupe de son Père, elle était très amère et très mauvaise. Elle était très dure à boire parce que c'est ce que nous, on méritait de boire à cause de nos péchés. Et Jésus a dit, « Ne boirai-je pas de cette coupe-là » Mais la coupe qui allait atténuer la douleur, qui allait endormir les sens, non, je ne vais pas prendre de cela. Mais il reste un dernier détail à propos de la myrrhe, c'est que la myrrhe était souvent utilisée depuis longtemps, depuis le temps de Joseph, même avant Joseph. C'était déjà établi depuis Genèse qu'on utilisait souvent la myrrhe pour embaumer les corps. C'était très cher, c'est juste les riches qu'on pouvait embaumer avec la myrrhe, Quand Jésus donc était mort prématurément, pas parce qu'on lui a ôté la vie, mais parce qu'il a donné sa vie, on se rappelle. Normalement, ça prenait longtemps de mourir sur la croix. Il finissait par mourir parce qu'ils n'avaient plus assez de force pour respirer. Ça prenait des jours parfois. Quand il voulait accélérer le processus, il cassait les jambes pour qu'il n'ait plus le pouvoir, il n'arrivait plus à se relever pour prendre le souffle. Et là, il mourait plus vite. Mais même avant ça, ils ont découvert que Jésus était déjà mort. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé de rendre l'âme. Le moment qu'il a dit, tout est accompli, puis entre tes mains, je rends mon esprit. Jésus a décidé de mourir pour nous. Il l'a dit dans Jean 10, personne ne lui ôte, il la donne pour nous. Et donc après que Jésus soit mort, Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, sont venus pour chercher le corps. Et ils l'ont embaumé avec son livre de myrrhe. Alors imaginez-vous l'image. Est-ce qu'ils savaient qu'il était Dieu? Oui. Qu'il était roi? Oui. Ils lui ont donné l'or parce qu'il était roi. Ils lui ont donné l'encens parce que ça valait beaucoup d'argent, mais aussi ça rentre dans tout ce que la Bible dit par rapport à c'est lui par lequel on peut prier à Dieu. Et l'image savait aussi que Jésus était venu pour mourir. Ils lui ont offert un cadeau qui valait très cher, de la nuit. Venant d'un arbre avec des longues ronces, donnant un goût très amer, pouvait endormir la colère, la douleur, il n'en voulait pas. Et donc, ces trois cadeaux-là. Maintenant, le but de leur cadeau, l'adoration. Ils l'ont adoré, puis ils lui ont donné les cadeaux. Donc, les cadeaux, c'était dans le contexte de leur adoration. Jésus méritait tout. Il méritait leur foi. Il méritait leur obéissance. Il méritait leur dépense. Il méritait toute leur vie. Et ils l'ont reconnu. Et ils ont cru en lui. Combien d'autres gens ont entendu parler de Jésus, mais ils ne se sont pas déplacés, ça ne valait pas la peine. Combien de gens avaient entendu parler de la naissance de Jésus de loin, mais ils n'ont pas été vérifiés. Ils n'ont pas pris la peine. Ah oui, ok, c'est bon. Vous savez, Jésus est venu pour mourir à notre place, pour nous sauver, pour nous amener à l'adoration. Jésus, il n'est pas venu pour nous sauver, pour qu'on ait une meilleure vie ici-bas sur terre, qu'on puisse faire notre propre affaire, continuer sur notre propre petit chemin. Vous savez, dans Ésaïe, ça dit, la nature du péché, nous y étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Les mages, non, Jésus est Dieu, on n'est pas venu suivre notre propre voie, on est venu pour suivre Jésus. Alors Jésus, il est venu nous sauver pour nous amener à l'adoration. Pour qu'on ne continue pas à suivre notre propre petit chemin dans la vie, qu'on puisse faire ce que ça nous tente de faire aujourd'hui, qu'on puisse faire la carrière qui nous plaît, etc. Juste faire notre petit train-train. Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse continuer sur ce chemin-là. C'est un chemin de péché, d'indépendance, de rébellion, d'incrédulité envers Dieu et d'arrogance. Parce que la seule manière que ça semble marcher de suivre notre voie, c'est que Dieu est patient. Si Dieu n'était pas patient, suivre notre voie, on serait déjà avec le fruit de nos péchés, c'est la mort éternelle. Mais par la patience de Dieu, Dieu retient la conséquence. Alors ça semble marcher que j'ai le bonheur à suivre ma propre voie. Ah ah, bah oui, je fais ce que je veux dans la vie. Jésus n'est pas venu nous sauver pour qu'on puisse continuer sur une telle voie. Et les mages ont bien compris ça. Les mages ont dit, il est venu pour nous sauver, pour qu'on l'adore. Et on va l'adorer. On va y mettre le prix. C'est pas grave, nos vies, c'est lui qui nous a donné la vie. Tout ce qu'on a lui appartient et on lui rend un cadeau digne de lui. L'adoration. L'adoration. Jésus valait le déplacement. Jésus valait leur cœur. Il valait leurs dépenses, leur dévouement, leur service. Jésus valait être au centre de leur vie. Laissez-moi vous demander la question. Jésus n'est pas venu pour qu'on se sente mieux maintenant. Pour nous donner un chaud au cœur, un beau programme. Ah oui, Jésus, c'est merveilleux que Jésus soit venu, ça nous donne un beau programme. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'adoration, rien de moins que ça. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur? Est-ce que vous vous êtes reconnu comme, ok, je suis pécheur, je suis sur ma propre petite voie, je suis de ma propre petite religion, et je n'ai pas encore accepté de croire que Jésus est vraiment mon sauveur, il est vraiment le Seigneur, puis que je lui dois la vie, je lui dois mon tout. Acceptez-le aujourd'hui. Lui donnerez-vous aujourd'hui votre confiance, votre obéissance, votre service, votre dévouement, votre cœur? Se convertir, c'est pas qu'on va donner tout d'un coup sans, parfaitement. Mais se convertir, c'est qu'on change de direction. Et là, on va dire, ok Dieu, je me convertis, puis je vais apprendre à t'adorer. Je vais apprendre à te mettre au centre de ma vie. Je vais apprendre à être prêt d'y mettre le prix. Je suis prêt à te donner mon temps, mes rêves, mes préférences. Je veux apprendre parce que moi, naturellement, mon cœur est corrompu. Pécheur, tortueux, pas honnête. Et toi, tu es venu pour donner ta vie, pour nous sauver. Les mages, ils ont reconnu qui était Jésus. Ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont mis le paquet parce qu'ils ont reconnu que Jésus est venu comme le Sauveur et le Seigneur, digne d'être adoré, rien de moins. Si vous ne vous êtes pas encore converti réellement, faites-le ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus? Je vais finir avec ce verset, je l'ai lu hier. Je n'avais pas planifié ça, mais en lisant ça hier, juste dans ma lecture personnelle, ça m'a comme sauté aux yeux. Donc, si vous voulez tourner, vous pouvez. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage. Psaume 17, 14. Psaume 17, 14. Je lisais tout bonnement. Et ces versets ont sauté de la page. Puis ils m'ont frappé sur la tête. Ah, c'est vraiment intéressant ça. Et ça, c'est merveilleux. On peut continuer à lire et lire et découvrir de plus en plus des détails qu'on n'avait pas encore marqués dans le passé. Ça dit quoi? Ça dit « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. » Ok, c'est pas encore fracassant là. Mais non, non, regardez ce qu'il dit après ça. Il dit « Leur part est dans la vie. » Tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Ah ouais. Les hommes de ce monde, ils font simplement vivre tout bonnement. De quoi? De toutes les bontés de Dieu. Un homme de ce monde ou une femme de ce monde, est-ce que c'est quelqu'un qui est rebelle, qui maudit Dieu? Ça peut l'être. Mais bien plus souvent, c'est les gens qui disent « Ah ouais, on a tellement de bienfaits de Dieu !» Et ils vivent pour ce monde. Dieu leur remplit leur ventre. Ils prennent soin de leurs enfants, leur permettent d'aller faire du sport, de faire l'éducation, de pouvoir se trouver une carrière, puis d'avoir un héritage. Ils restent leur superflu à leurs enfants. Ils se rassasient de tous les biens de Dieu. Tu leur remplis leur ventre. Et c'est Dieu qui leur remplit le ventre. Et toutes les bonnes choses que Dieu donne, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vivent dans ce monde. Et ils apprécient les choses de ce monde. L'éternité? Ah non, c'est pour moi. Qu'est-ce que j'ai à faire de l'éternité? C'est maintenant que je vis. Les hommes de ce monde, ils n'ont rien compris. Et David dit, délivre-moi de telle personne. Ils ne comprennent rien. Ce monde, c'est comme un bateau qui coule. Ce n'est pas le temps de chercher à suivre sa propre voie. Ce n'est pas le temps de se rendre confortable. Ce n'est pas le temps de simplement penser à son bon tiré. Je suis content, Dieu me donne toutes sortes de bonnes choses à manger. Ah, je suis bien rempli aujourd'hui. Ah, est-ce qu'on... Si on se convertit, on ne va plus jamais manger. Ce n'est pas la question. Oui, on va manger, mais ce n'est pas pour le vent. C'est pour l'éternité. Ah, quel... Alors laissez-moi vous dire. Les mages ont compris. Ils n'étaient pas des hommes de ce monde. On va finir avec un shampoing de place. Pensez-vous, est-ce que vous l'avez accepté? Sinon, ah, Dieu, il vous dit avec amour, vous êtes pour l'instant quelqu'un de ce monde. Mais réveillez-vous, ce monde. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 50 ans. Mais soyez pas quelqu'un de ce monde. Conversez-vous pour l'éternité. Mais ça prend Jésus, ça prend qu'on veut l'adorer. Si on se convertit à lui, Jésus est né dans les ténèbres. On va finir avec ce cantique. Point de place.
Jésus est né dans l'étable, sur la paille il fut couché. Après la gloire ineffable qu'il avait quitté, dans la
ces paroles veulent dire tout ce qui est au fond de votre cœur.
Jésus prend toute la place dans mon cœur qui s'ouvre à toi. Viens tout changer par ta grâce. Ô Jésus, mon roi.
Juste avant que je prie, je vais juste donner quelques moments de silence, de réflexion personnelle. Pensez, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, pourquoi pas l'accepter aujourd'hui et commencer votre adoration comme l'image. On peut garder les têtes baissées, les yeux fermés. Juste avant que je prie, je vais donner l'occasion. Peut-être que quelqu'un dirait, pasteur, priez pour moi, je réalise que je suis perdu. Ou je suis pas sûr à propos de mon état éternel, mais ça me tient à cœur. J'aimerais pouvoir savoir comment et avoir Jésus comme mon sauveur et d'une manière certaine. Pouvez-vous prier pour moi? Et si c'est votre cas, juste vous faire un petit signe de la main, je vais prier spécialement pour vous. Donc si ça touche votre cœur, juste me regarder, puis je vais prier pour vous, ou me faire un petit signe de la main. Donc, ça travaille. Si ça touche vraiment votre cœur, venez me voir après, ou si vous êtes une demoiselle ou une dame, allez voir mon épouse. Mais ne laissez pas la journée finir. Si ça travaille dans votre cœur, si vous savez que là, oh, si je meurs, je n'irai pas au ciel, je ne pense pas là, parce que la Bible me dit que mes péchés me condamnent, que j'ai besoin de Jésus comme sauveur. Ben, si ça travaille vraiment dans votre cœur, le Saint-Esprit travaille, ben, acceptez-le aujourd'hui. Si vous voulez en parler, priez avec mon chômage, mon épouse. Après la réunion, après qu'on a fini aujourd'hui, on est libre pour ça. On veut prendre le temps, si ça travaille vraiment. On va prier. Seigneur Dieu, touche les cœurs. Seigneur, tu connais ceux qui désiraient qu'on prie pour eux spécialement là-dessus, qui m'ont fait signe. On te prie spécialement pour eux, mais on te prie aussi pour tout le monde. Seigneur Dieu, qui ne t'a peut-être pas encore accepté. On te prie pour ceux d'entre nous qui t'avons accepté, que tu puisses vraiment avoir notre cœur dans la vie de tous les jours, de plus en plus, qu'on puisse vraiment être ton image, te démontrer l'adoration et l'appréciation de ce que tu as fait pour nous en venant pour être notre sauveur. Seigneur, c'est ceux qui n'ont pas encore cette assurance d'avoir Jésus comme sauveur par la repentance et la foi. Oh Seigneur, pèse lourd sur leur cœur. C'est le but pour lequel tu es venu, Jésus, être né. C'est le but pour lequel tu es mort. C'est le but pour lequel tu es ressuscité. Donc Seigneur, je te prie que tu puisses continuer par ton Esprit Saint à peser lourd sur le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Presse-les dans ta bonté à la repentance. Puisse avaler leur orgueil puis réaliser à quel point ils sont perdus. Pour se confier en toi uniquement et de croire vraiment le message de la bonne nouvelle que Jésus a déjà tout fait. Et que le salut est déjà tout accompli. Il suffit que ça soit appliqué au cœur. Et quand on accepte Jésus comme notre sauveur par la foi, lui, il l'applique sur le cœur. Et le garantit. Il donne le Saint-Esprit comme une garantie. Donc Seigneur, je te prie, tu peux faire une œuvre éternelle. Et que plusieurs puissent venir à toi, même aujourd'hui. Et que les anges puissent se réjouir qu'un pécheur est venu à toi. Mais on te prie donc que tu puisses toucher les cœurs. Merci encore pour l'occasion ce Noël de proclamer la raison et le but du message de Noël. Seigneur, on te prie. Au nom de Jésus. Donc, ne laissons pas le repas, tout ça, nous faire oublier le message. Mais, pourtant, d'avoir un repas ensemble qu'on puisse manger ensemble. Donc, on va tasser les chaises, on va mettre les tables. Vous pouvez simplement, si vous n'êtes pas sûr quoi faire, vous pouvez simplement aller de l'autre côté ou devant, parler entre vous. Ceux qui aimeraient aider, vous pouvez. Donc, content que vous puissiez être là ce matin et content qu'on puisse manger ensemble. Et merci à tous ceux, toutes et celles qui ont préparé à nous quelque chose.
Thank you.